Vous êtes sur RTL.
J'étais très étonné d'apprendre le décès du major, qui était un homme jeune, sportif. J'ai été étonné à plusieurs reprises et au fur et à mesure, je ne me suis pas fait une conviction, mais j'ai trouvé qu'il y avait des éléments troublants dans cette affaire.
Bonsoir, le mari, la femme et l'amant, un trio criminel des plus classiques qui a conduit depuis la nuit des temps bien des hommes et des femmes devant des cours d'assises. Quand le poison se mêle à l'affaire, celle-ci devient tout de suite plus tortueuse. Et quand la manipulation mentale est de la partie, alors elle est tout simplement diabolique. C'est le cas ce soir avec l'affaire que nous allons raconter, le crime du major Zawadzki près d'Orléans en 1998. Une mort brutal et inattendu qui a failli passer inaperçu. La suite va révéler un surprenant théâtre d'ombre, des personnages tout droit sortis d'un film d'Hitchcock ou de Chabrol, des mensonges, des affabulations. Le terme « lavage de cerveau » sera même employé lors des procès qui poseront un point final à cette longue enquête. 20 ans après l'affaire Zawadzki que nous explorons ce soir à la demande d'une auditrice de La Rochelle, cette affaire demeure un cas d'école, le scénario idéal de ce qui aurait dû être un crime parfait. Nous verrons avec nos invités pourquoi finalement les masques sont tombés et quels vrais visages ont alors découvert les enquêteurs, les magistrats, les avocats et les jurés. L'affaire Zawadzki, comment éliminer un homme en pleine santé et venir pleurer sur sa tombe? L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. 20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Zawadzki, le nom d'un jeune militaire qui avait la vie devant lui, mais qui s'éteint, frappé par la maladie, à l'aube du printemps 1998, la faute à son métier. Le 11 mars 1998, en début d'après-midi, Nicole Zawadzki rentre chez elle, chemin de la Croix-Saint-Jacques, dans le petit village de Sougy, à côté d'Orléans. Son mari, Jean-Paul Zawadzki, alité depuis plusieurs jours et souffrant d'un mal étrange, est au plus mal. L'épouse appelle immédiatement le médecin de famille, le docteur Michel T. Celui-ci arrive rapidement, mais quand il se présente à la porte du pavillon, il est déjà trop tard. Le cœur de Jean-Paul Zawadzki, un colosse âgé de 38 ans, a lâché. Le médecin délivre à 15h15 le certificat de décès, mort naturelle. Cela faisait plusieurs jours que l'état de santé de Jean-Paul Zawadzki s'était dégradé. Le médecin le visitait régulièrement pour des accès de tension artérielle incontrôlables. Dès la fin 1997, ce major de l'armée de l'air, chef mécanicien sur les avions Transal de la base 123 à Brissy, avait montré des signes de fatigue. Il rentrait alors d'une longue mission à Libreville, au Gabon. Dans les jours suivants, le militaire avait commencé à se plaindre de douleurs dans les yeux, de maux de tête. Il redoutait de ne plus pouvoir voler et avait été contraint de s'aliter. Ses visiteurs avaient face à eux un homme aux yeux injectés de sang, épuisé et anxieux. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, une radiographie n'avait rien décelé d'anormal. Le médecin avait alors modifié son traitement sans juger utile une hospitalisation. Les militaires de la base aérienne ont du mal à admettre cette mort si rapide. Jean-Paul était un gaillard de 1m90 pour 95 kg, très sportif, jusqu'ici en pleine santé. Les officiers se succèdent au domicile du défunt, l'aumônier de la base, le père Daniel Lefrançois et le premier prévenu. Ils donnent les derniers sacrements à Jean-Paul Zawadzki. Le colonel Roussel rend lui aussi visite à Nicole, une veuve effondrée, en larmes, qui ne peut contenir son émotion. Le couple avait une fille de 10 ans. 5 jours après le décès, l'armée rend les honneurs à l'un des siens, une cérémonie militaire sur le tarmac de la base 123, la fanfare, le cercueil drapé de tricolore placé à bord d'un avion Transal. Jean-Paul Zawadzki reposera dans le caveau familial de Châteauneuf-sur-Cher au sud de Bourges. Les questions sur la mort du chef mécanicien vont rester sans réponse. Aux officiers de la base, le médecin de famille ne peut que s'abriter derrière le secret professionnel. Il évoque toutefois des problèmes de tension. Il a trop tiré sur la carcasse, indique le praticien. Allusion aux séances de musculation forcenée auxquelles s'adonnait le soldat. Des biceps pour plaire aux minettes, comme lui avait dit une fois l'épouse du défunt. Bonsoir Gérald Massé.
Si. Bonsoir.
Vous êtes journaliste à l'Écho républicain au moment des faits et vous avez traité toute cette affaire. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Alors, justement, là, il n'y a pas de scène du crime, mais une scène de mort naturelle. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est cette famille Zawadzki ?
Oui, en fait, ils se sont installés à Sougy. C'est un petit village hein, entre dans le Loiret, mais c'est vraiment aux confins de l'Eure-et-Loir, très proche d'Orgères-en-Beauce. Et ils se sont mariés en 1987. Mm-hmm. Ils ont eu une fille en 88, hein, très rapidement. Et ils ont acheté une maison dans ce petit village qui était proche, en fait, de la base aérienne où travaillait le major. Et jusque-là, ils ont eu une vie tout à fait normale pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que Jean-Paul Zawadzki parte pour la guerre du Golfe. Et là, sa femme, Nicole, a très mal supporté son départ. Mm-hmm. Elle est tombée en dépression. Et elle est allée voir la personne qui était considérée comme le meilleur médecin de la région.
Oui, c'est le docteur Michel T, hein, c'est ça.
Michel T, pour la première fois, je crois que c'était en janvier 91, quelque chose comme ça.
D'accord. Donc, alors, ce que vous nous décrivez là, Gérald Massé, c'est une famille tranquille qui ne fait pas parler d'elle. Il n'y a pas de soucis de voisinage, etc. Il n'y a pas a priori de dispute. Tout va bien chez les Zawadzki.
Tout va bien, seulement quand il est revenu de la guerre du Golfe, bon déjà ils ont eu un gros problème puisque Nicole attendait un autre enfant, mais en raison d'une grossesse extra-utérine, elle a perdu le fœtus. Et en 1993, il me semble, à partir de là, la situation financière du couple s'est vraiment dégradée. En fait, je crois que Nicole, si je me rappelle bien ce qui s'était passé au procès, il s'est avéré qu'elle dépensait beaucoup. Mm-hmm. Et elle avait après ils ont eu vraiment des problèmes financiers. Et en consultant le docteur T, petit à petit, des liens se sont liés entre eux. Mm-hmm. À partir de là, c'est devenu très pesant pour le docteur, puisque elle l'appelait la nuit et ça devenait insupportable pour la femme du docteur. Et d'ailleurs, ils se sont quittés en 1997.
Alors, maître Jean-Yves Le Borgne, merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'un de nos invités ce soir et vous êtes dans le studio de l'heure du crime. Vous confirmez cette description du... Vous êtes, je précise, l'avocat du médecin hein, de la famille, le docteur Michel T. Vous confirmez cette liaison qui se noue et qui va un petit peu se déliter au fil des mois ?
Oui, il est clair que la liaison entre Nicole Zawadzki et le médecin va être au cœur de la problématique. Cette liaison très, très étrange, dont on aura du mal d'ailleurs à comprendre le développement. Mais voyez-vous, ça n'est pas quelque chose de très original dans une affaire criminelle. Je pense qu'il y a des comportements humains qui échappent à une complète compréhension. Et je pense que les liens entre cette femme et cet homme sont difficilement susceptibles d'une analyse claire. Le crime le sera aussi.
Pour l'instant, donc, il déclare la mort naturelle. Il aura beaucoup de regrets d'avoir écrit ça et d'avoir dit ça par la suite.
Alors, il faut savoir que lorsque l'affaire judiciaire se noue, elle se noue grâce au patron de la station à laquelle appartient le major, le colonel, puisque
la base,
le colonel il était colonel à l'époque qui commande, va saisir la justice en disant c'est étrange, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne colle pas.
Et ça on va effectivement y venir dans cet épisode. En tout cas, il y a une liaison qui est assez importante, suivie et qui va s'amplifier tout ça dans le dos de la victime de Jean-Paul Zawadzki. Lui, il est toujours à droite à gauche, sur des terrains de guerre, etc. Et effectivement, il y a un manque affectif à ce moment-là. Hein, je suppose. Enfin, peut-être d'ailleurs notre autre invité, hein, Maître Henri de Beauregard. Vous êtes l'avocat de Nicole Zawadzki, la femme de Jean-Paul Zawadzki. Vous confirmez cette liaison aussi, évidemment.
C'est... Bien sûr. Mais ce qui me paraît important à considérer, c'est qu'en effet, cette liaison, elle démarre alors qu'elle vient chercher un médecin. Elle vient chercher un médecin parce que elle est en dépression, parce que elle a eu une fausse couche, on en parlait à l'instant, parce que son mari a de longues absences qui sont liées à ses missions. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de, je vous entendais dire à l'instant, bah finalement dans le dos, etc. En fait, c'est pas du tout comme ça que c'est conçu à ce moment-là.
Ah bah c'est important.
Elle va chercher de l'aide en fait, parce qu'elle sent qu'elle est pas bien, et elle va chercher de l'aide auprès d'un médecin. Le problème est que là où elle va chercher quelqu'un qui doit la soigner, en fait, elle va trouver quelqu'un qui se fait fort de la protéger. Et se fait en quelque sorte une image de chevalier servant, de la protéger avec l'idée que peut-être elle est en danger.
Quelqu'un en qui elle aura confiance, et ça c'est tout l'intermètre. Nicole Zawadzki va bientôt se faire remarquer pour tout autre chose que son chagrin. La mort de son mari va alors intriguer de plus en plus de monde, jusqu'aux gendarmes. L'affaire Zawadzki, la mort bien trop brutale du chef mécanicien, l'aurait-on aidé à rendre son dernier souffle? L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. L'heure du crime sur RTL.
Et au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Jean-Paul Zawadzki. Il est mort subitement au mois de mars 1998. Une mort naturelle que ses collègues militaires ont bien du mal à accepter. À la base 123, le colonel Ponce, qui dirige les lieux, ne se remet pas de la mort du major Zawadzki. Il craint que son chef mécanicien ait contracté un virus en Afrique, une maladie tropicale, et redoute désormais d'envoyer ses hommes en mission. Le colonel n'a pas pu obtenir beaucoup d'indications de la part du médecin qui le suivait, le docteur Michel T, médecin installé dans le bourg d'Orgères en Beauce et réputé pour son sérieux et sa gentillesse. Un homme qui ne compte pas ses heures, il est le médecin capitaine de la caserne des pompiers et il a déjà sauvé quelques vies lors d'accidents de la route. Le colonel Ponce est d'autant plus ennuyé qu'une rumeur insistante court. Le docteur T aurait une liaison avec Nicole Zawadzki. Il serait amant, une relation qui durerait depuis plusieurs années. Le médecin, père de 3 enfants et en instance de divorce, serait un visiteur régulier du domicile des Zawadzki. Le chef de la base aérienne a désormais quelques soupçons. Il en fait part à un ami gendarme. La gendarmerie prend très au sérieux cette histoire d'adultère sur fond de mort inexpliquée. Le parquet d'Orléans est alerté, une enquête est discrètement déclenchée et confiée à la brigade de recherche locale. Enquête pour homicide volontaire. Rien ne filtre des investigations. Les gendarmes ne veulent pas attirer l'attention de la veuve Nicole Zawadzki ou celle de son amant présumé, Michel T. Les parents du défunt interrogé jugent sévèrement Nicole. Ils la décrivent comme une femme qui les aurait peu à peu éloignés de leur fils. Ils n'auraient été prévenus de la naissance de leur petite fille que 15 jours plus tard. Ils décrivent aussi un couple qui s'était endetté jusqu'au cou. Leur fils leur aurait fait part de ses difficultés financières, affirmant même qu'il était interdit bancaire. Les gendarmes sont enfin étonnés du nouveau comportement de Nicole Zawadzki. À peine a-t-elle empoché l'assurance vie de son mari qu'elle s'est acheté une BMW flambant neuve et fait procéder à des aménagements dans le pavillon. Veuve sans doute, mais veuve assurément libérée. Les enquêteurs accumulent doutes et questions autour de la mort du major Zawadzki. Le juge d'instruction d'Orléans, Olivier Joulin, estime que pour en avoir le cœur net, le plus simple est de procéder à l'exhumation du corps. Le 2 juin 1998, moins de 3 mois après le décès, le juge, sa greffière, des gendarmes et une équipe de fossoyeurs sont dans le cimetière de Châteauneuf-sur-Cher. Se déroule alors une scène étonnante. Une femme, un bouquet à la main, pénètre dans le cimetière. C'est Nicole Zawadzki. Elle dit venir se recueillir sur la tombe de son époux. Est-elle ici par hasard ou a-t-elle été prévenu de l'exhumation? Impossible à dire. Le juge Joulin prend une décision expresse. Il demande aux gendarmes de placer la veuve en garde à vue pour, dit-il, de de simples vérifications. Gérald Massé, je le rappelle, vous êtes journaliste à l'Écho Républicain et vous avez traité cette affaire à l'époque. Alors cette histoire d'adultère, finalement tout se sait dans ces villages d'Orsère, en Beauce et de Sougy. La rumeur court très vite.
Évidemment, il n'y a que quelques centaines d'habitants à Sougy, donc tout se sait, c'est difficile. En plus, c'était quelqu'un de public, le docteur T. Mm-hmm. Donc, évidemment, il y a des on-dit, mais il y a aussi derrière les on-dit, il y a parfois la vérité. Alors, on ne sait pas exactement quelle était la nature des... Peut-être que Maître Leborg pourra en dire plus, la nature réelle de la relation entre les deux. Il s'est dit, je crois, au procès, que c'était plutôt un amour platonique. Mais toujours est-il que ça a surpris pas mal d'habitants, et surtout, enfin, ils ont vu ça vraiment d'un mauvais œil, car le major, enfin le mari de Nicole, était très bien vu dans le village.
Oui, c'est ça. Il était très bien vu, et c'était très bien vu aussi au sein de la base. C'était quelqu'un de très respecté. Maître Jean-Yves Leborgne, puisque vous êtes cité, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Michel T, le médecin de la famille. Il est en ce moment-là, quand il connaît Nicole, il va être en instance de divorce, c'est ça ? Il traverse une mauvaise passe, ce médecin.
Oui, il est en situation de séparation, il va être très vite très amoureux de Nicole Zavadsky. Alors j'entendais mon confrère de Bourgard nous dire à l'instant qu'elle était venue chercher protection. C'était un début de plaidoirie. Hein. En réalité, il va se constituer une situation tout à fait spéciale entre un homme fou amoureux, une femme dont j'ignore et dont on ignorera toujours jusqu'au bout si elle était amoureuse de lui ou pas, mais qui va prendre une sorte d'extraordinaire plaisir à le placer sous sa coupe. Et c'est de ce scénario-là que toute l'affaire va découler.
Ouais, ouais. Maître Henri de Beauregard, vous êtes l'avocat donc de Nicole Zavadsky, la femme de Jean-Paul Zavadsky. Elle se fait remarquer, finalement, après la mort de son mari. Je citais la BMW, etc., oui. Ses travaux. Alors, ça tient du fantasme ou c'est la vérité ?
Je crois que ça tient assez largement du fantasme. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des assurances-vie. En réalité, ces assurances-vie, elles étaient au nom de la fille du couple et elles sont restées au nom de la fille du couple et elles n'ont pas été perçues, en tout cas de leur intégralité, par Nicole Zavadsky et pas dans des proportions qui justifient ou qui pourraient donner un mobile crédible au crime. Je crois, enfin on y reviendra probablement ensuite, que la question du mobile du crime a été un peu au cœur des investigations et qu'il n'y a jamais de mobile satisfaisant qui ait été trouvé. En réalité, le mobile du crime, s'il doit y en avoir un, il est probablement à chercher exclusivement dans la relation dont Jean-Yves Leborgne parlait à l'instant, entre ces deux-là, sur lequel il ne vous aura pas échappé qu'évidemment on ne sera pas complètement d'accord.
C'est pas grave, ça fait partie du jeu.
Lui est amoureux, mais elle, on ne sait pas trop si elle le serait. Pourquoi ne le serait-elle pas ? La vérité, c'est qu'elle l'était probablement aussi. Lui est médecin, elle a, je crois, un BEP, etc. Et en effet, elle est dépressive et elle vient chercher de l'aide auprès d'un médecin. Mmh. Ça, il me semble qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
Sans trop s'avancer, Maître de Beauregard et Maître Leborgne, sans trop s'avancer, si le mobile n'est pas l'argent, c'est quoi ? C'est l'amour ? C'est la volonté d'éliminer un rival ?
Je suis d'accord avec mon ami Henri de Beauregard pour dire que l'argent n'est probablement pas du tout le mobile. C'est peut-être ce qui a appelé l'attention, c'est peut-être ce qui a permis dans un premier temps d'inscrire cette situation dans un scénario classique de l'assassinat destiné à récupérer l'assurance. Mais je suis bien convaincu que tel n'est pas le motif. Tout ce qui fait l'intérêt de cette affaire et son caractère exceptionnel, c'est précisément que le mobile semble être quelque chose d'un peu fantasmé, d'un peu extraordinaire. Elle va expliquer, Nicole Zavadsky, au médecin, dans des conditions sur lesquelles j'imagine on reviendra, à quel point elle est menacée, à quel point elle est maltraitée,
oui,
à quel
ça.
Point il y a une sorte de cruauté épouvantable de son mari à son encontre. Et en fait, on saura après qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça.
On saura après, et d'ailleurs on va y venir. Encore une petite question quand même. On est là, on est tout début, hein. Les gardes à vue qui commencent, hein, celle de Nicole et puis celle du docteur. Là, les enquêteurs, ils ont quoi? Pas grand-chose. Ils ont des suppositions.
Alors, si vous permettez, là, c'est un point important. Parce que lorsque on procède à l'exhumation du corps, on ne sait encore rien. Il faut que des investigations scientifiques soient faites. Or, en garde à vue, le docteur T va expliquer les choses. Ouais. Ce qui est déjà un point important sur sa personnalité.
On est d'accord, maître Le Borgne, et on va le raconter dans le chapitre qui vient. Mais pour l'instant, les enquêteurs, ils attendent, quoi. Hein, ils ont un faisceau peut-être de présomption, quelques rumeurs qui courent, mais c'est à peu près tout.
Bon, même pas, on est dans la vérification.
Garde à vue capitale qui va mettre au jour un tissu de mensonges et quelques secrets plus ou moins bien gardés. La veuve du militaire ne va pas être seule à être interrogée. Le docteur T va être lui aussi mis sur le grill. L'affaire Zavadzki, le militaire a-t-il été tué par des amants qui auraient conclu un pacte diabolique? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Zavadzki, un major de l'armée de l'air mort dans des circonstances mystérieuses. Sa veuve Nicole est en garde à vue, tout comme le médecin de famille. Les gendarmes de la section de recherche d'Orléans interrogent dans une pièce Nicole Zavadzki et dans une autre le docteur T. Nicole est questionnée sur le décès de son époux. Elle explique que celui-ci est mort d'asphyxie, que le médecin lui a parlé d'un problème de tension, mais elle n'en sait pas beaucoup plus. Elle explique que le matin de la mort, son mari semblait aller beaucoup mieux. La forme était revenue et elle lui avait servi un bon petit déjeuner. Ce que la veuve ne sait pas, c'est que le corps de Jean-Paul a bel et bien été exhumé et surtout autopsié à l'Institut médico-légal de Paris par la docteure Dominique Lecomte. Or, il est avéré que la victime ne s'est pas alimentée dans les heures précédant le décès. Le major était tout simplement plongé à ce moment-là dans le coma. Nicole est interrogée également sur une éventuelle relation sentimentale avec le docteur T. Elle dément, évoque un ami proche. Le docteur Michel T est beaucoup plus direct sur ses relations avec Nicole Zavadzki. Il admet sans difficulté qu'elle est sa maîtresse depuis quelques années. Il s'entend bien avec elle. Il est séparé de son épouse et s'apprête à divorcer. Sur la mort du militaire, il répète ce qu'il a toujours dit. Un inexplicable problème de tension artérielle qui s'est brutalement amplifié. Mais quand le médecin apprend qu'il y a eu autopsie, il change d'attitude. Il sait ce qu'on va retrouver dans le corps de la victime. Il ne fait plus aucun obstacle à dire la vérité. Il indique qu'il est responsable de la mort du major. Il lui a administré, avec l'aide de Nicole, un cocktail de sédatifs et bêta-bloquants qui ont entraîné la dégradation de son état de santé et provoqué l'issue fatale. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Après cette question, le médecin explique les motivations de son geste. Il fallait qu'il sauve Nicole, qui était une épouse en danger. Il avait rencontré une femme en pleine détresse, victime d'un mari violent, le jouet d'un personnage qui lui imposait des relations sexuelles non consenties, parfois avec d'autres hommes, et la battait. Nicole lui avait tout raconté, son manque de chance, une enfance misérable, un frère jumeau décédé à l'âge de 15 ans. Il l'avait prise en compassion et il fallait qu'il l'aide. Elle se raccrochait à lui comme à une bouée de sauvetage. Elle l'appelait la nuit, parfois des dizaines de fois, pour lui faire part de ses malheurs, des violences endurées. Elle lui avait raconté que même sa fille avait été victime des agissements de ce salaud, comme il le qualifie devant les gendarmes. Pour preuve, Nicole lui avait montré des dessins accusateurs de son enfant. Autant d'appels au secours, mais autant d'histoires qui vont s'avérer comme des histoires à dormir debout. Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat du médecin de famille, le docteur T, ces histoires, il y en aura d'autres que nous avons racontées. Ce que raconte Nicole au médecin, ce sont des histoires destinées à le séduire, à le rendre amoureux?
Écoutez, je ne le crois pas. Je crois que Nicole Zavadsky, peu à peu, s'enferme dans une sorte d'histoire qu'elle raconte et à laquelle, peut-être, sur l'instant, elle croit elle-même. Lorsque j'ai rencontré pour la première fois le docteur T, en détention, bien sûr, il m'a dit « Mais je ne comprends pas qu'on n'ait jamais entendu la tante Julie. Il faut que vous demandiez que soit entendue la tante Julie. » Or, la tante Julie n'existait pas. Mais il arrivait qu'elle l'appelle alors qu'il était en communication avec Nicole Zavadsky. Et on va comprendre que la tante Julie n'est autre que Nicole Zavadsky, qui contrefait sa voix et qui raconte les malheurs de sa malheureuse nièce. Le frère jumeau dont vous avez parlé n'existe pas. Les dessins de l'enfant qui appelle au secours pour sa mère n'ont pas été faits par l'enfant, mais par Nicole Zavadsky. Dans une sorte de folie, disons-le, que je ne saurais expliquer, elle s'est enfermée dans ce mythe, dans cette histoire absurde de persécution dont elle serait l'objet. Et lui, la croix.
Maître Henri de Beauregard, vous êtes l'avocat de Nicole Zavadsky. Alors, question toute simple, pourquoi autant d'affabulations? Pourquoi autant de mensonges?
C'est pour ça que je commençais par là tout à l'heure. En fait, elle vient voir un médecin parce qu'elle est déprimée. Elle vient solliciter de l'attention de ce médecin. Et en fait, d'attention, elle a quelqu'un qui, une fois encore, se situe immédiatement en protecteur. Et pour conserver l'écoute et l'attention de ce médecin qui se situe en protecteur, elle n'a pas d'autre choix que de l'entretenir dans l'image qu'il s'est donnée à lui-même de protecteur. Et c'est la raison pour laquelle...
Un confesseur.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'écoute, de l'attention dont elle a besoin, elle va inventer, en effet, un certain nombre d'histoires, toujours plus rocambolesques, et peut-être certaines d'entre elles étaient à ce point difficiles à croire ou auraient pu être si facilement détectées qu'elle espérait probablement secrètement qu'elle le soit par un médecin qui avait un niveau d'études qui était assez largement supérieur au sien malgré tout et un niveau
on peut le penser effectivement
qui a pas grand chose à voir avec le sien. Je rappelle qu'elle a un BEP, on est sur des gens qui ont des niveaux de connaissances, des niveaux intellectuels, des backgrounds culturels quand même très différents et elle pour continuer à obtenir l'attention qu'elle reçoit de ce médecin, elle, en effet, invente un certain nombre de violences dont elle aurait été l'objet.
Elle place la barre toujours plus haut pour être entendue. Hein, donc c'est ce que vous nous dites, maître.
Hein.
Maître Leborne, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu là sur cette histoire de poison, là, etc. Parce que le docteur, il va là se mettre à table, hein, il va raconter, il n'a pas le choix, il est acculé. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Qui a empoisonné et qui? Comment ça s'est passé? Quelles sont les versions données?
Alors d'abord, il y a le moment auquel le docteur T va révéler les choses. Vous dites que c'est lorsqu'il sait qu'il va y avoir une analyse. Mais en réalité, non. C'est lorsque l'on exhume le corps, ça correspond au moment où il va être placé en garde à vue. Entre l'exhumation et l'examen et l'analyse scientifique du corps, il y a du temps qui va se passer. Mais c'est dès la garde à vue, lui, qui va donner les éléments. D'ailleurs, on n'a jamais trop su, mais le problème s'est posé au procès, de savoir si, sans les explications du docteur T, l'analyse scientifique du corps auquel on aurait procédé eût été suffisante pour révéler l'empoisonnement.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il met les enquêteurs sur la voie.
Il ne les met pas sur la voie, il leur explique tout.
Il leur explique tout, mais alors il explique tout, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il explique ce sont des piqûres, comment ça se passe?
Non, ce n'est pas des piqûres, ce sont des médicaments que lui-même d'ailleurs a prescrits et dont le mélange est épouvantablement meurtrier. Médicaments qu'il va, dans un premier temps, préparé, puis confié à Nicole Zavadsky, qui dira, mais bien sûr, le reste du dossier démentira qu'elle ne savait pas que les médicaments en question avaient une finalité meurtrière. Et on est dans ce contexte où finalement les choses s'enflamment d'une manière extraordinaire. Et voyez-vous, il y a quelque chose qu'il faut dire. Parce que j'entendais Henri de Beauregard vous dire à l'instant que finalement elle cherchait une protection et qu'elle était tombée sur une sorte de chevalier servant,
pourquoi pas,
complètement fou, qui avait cru toutes ces folies. En réalité, a été aussi entendu au cours du procès. Un psychiatre, une femme psychiatre, qui a expliqué le désir qu'avaient certains individus, un désir particulièrement fort, de placer une personnalité sous leur contrôle, et que plus précisément cette personnalité était d'un niveau social élevé, plus le placement sous l'emprise avait un caractère de jouissance. Et c'est ça l'histoire de cette affaire.
Gérald Massé, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime et l'un de nos invités ce soir. Je suppose qu'à l'époque, c'est une vraie déflagration dans cette région, ces deux gardes à vue puis qui vont se conclure par des mises en examen.
Ouais, effectivement, le docteur T avait un des cabinets médicaux les plus importants de l'Eure-et-Loire. Donc c'était une personnalité locale. En plus, il était pompier. Comme cela a été dit, il a sauvé des vies. Enfin voilà, c'était vraiment, et puis quelqu'un d'aimé, quelqu'un vraiment de, c'était quasiment l'homme parfait, quoi.
Jusqu'à
ce qu'on apprenne ce qui s'était passé.
Tout le monde tombe de l'armoire. C'est ça, comme on dit un peu vulgairement.
Complètement. Et pendant le procès, peut-être qu'on y reviendra après. Il avait une image excellente. Enfin. Les gens étaient en empathie, même Gilles Latapie qui était le juge, on sentait qu'il y avait de l'empathie. Il me l'a confirmé après quand on s'est rencontré lorsqu'il a sorti son livre. Voilà, j'ai eu l'impression pendant ce procès, en fait, il y avait deux personnes dans le box derrière ces vitres, et j'ai l'impression qu'il y avait une accusée et une victime. Alors c'est dur ce que je dis, mais parce que évidemment il avait son libre arbitre, hein, mais moi c'est cette impression étrange que j'ai eue.
En dépit des rétractations de la veuve, elle est mise en examen pour empoisonnement avec préméditation, tout comme son amant, le docteur T. Le couple illégitime sera donc jugé devant une cour d'assises. L'affaire Zavadzki, les amants empoisonneurs, mais de ces deux-là, qui dit vraiment la vérité? C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Zavadzki. Son épouse Nicole et son amant, le docteur T, sont accusés de lui avoir donné la mort en l'empoisonnant. Leur procès s'ouvre en 2001, 3 ans après le trouble décès du major de l'armée de l'air. Ce 19 juin 2001, la salle de la cour d'assises du Loiret à Orléans est comble pour assister au procès de ceux qu'on surnomme les amants diaboliques d'Orgères. Même si le couple n'a d'amants que de noms, ils seraient plutôt devenus des ennemis. Nicole Zavadzki, la veuve, est une petite brune qui se décrit comme une femme qui n'a jamais voulu la mort de son cher mari. « Il était le seul homme que j'aimais », répète-t-elle. Elle explique qu'elle ignorait tout de l'empoisonnement aux médicaments concoctés par son amant docteur. Celui-ci, ajoute-t-elle, lui aurait imposé des relations intimes. Nicole dit avoir été sous influence. Elle raconte en outre une enfance sans amour, peu d'études, un premier travail de serveuse à 18 ans. Elle sera licenciée pour avoir volé dans la caisse de l'établissement, licenciée encore pour les mêmes raisons de son poste de guichetière du Crédit Agricole. Dans le box, Michel T. répond qu'il a été manipulé. Une passion amoureuse qui, dit-il, lui aurait fait perdre toute lucidité. Il aurait avalé tout cru les fables de Nicole, le fait qu'elle était une femme battue au bord du suicide. Il avait cru encore à l'existence de cette mystérieuse tante Julie, une tante de Nicole qu'il appelait presque tous les soirs, l'encourageant à aider au plus vite sa protégée. Question de vie ou de mort, un stratagème. Tante Nicole n'existait pas, mais cette voix implorante et âgée au bout du fil, c'était bien celle transformée de Nicole. Elle aurait ainsi cherché à le faire craquer, à lui venir au secours. Cours coûte que coûte, le médecin qui ne trouvait plus le sommeil buvait les paroles de tante Julie. Il avait demandé à la rencontrer, Nicole avait refusé, puis lui avait dit qu'elle habitait la commune de Saint-Doulchard. Il avait eu rendez-vous avec elle, mais elle n'était pas venue. Nicole lui avait dit alors que tante Julie venait de perdre son mari. Un certain Julien Dubourg, pure invention là aussi. 3 jours d'audience, Nicole Zavadzki nie les faits. Elle est présentée par l'avocat général comme une menteuse constitutionnelle, une totale mythomane. Le docteur T, lui, se dit responsable, plaide coupable. Selon les experts psychiatres, il serait un simple intervenant. Gérald Massé, je crois que vous étiez à ce procès, à grand spectacle à l'époque. Dans quelle ambiance s'est ouverte cette audience? Vous l'avez un petit peu dit précédemment, mais répétez-nous un petit peu dans quelle ambiance s'ouvre ce procès.
Ben déjà, la salle était comble. L'ambiance était tendue. Il y avait beaucoup de curiosité, en fait, je pense, de la part du public. Les gens voulaient voir les deux accusés, et surtout Nicole, je pense, parce que tout était parti d'elle, en fait. Hein. Même si, en l'occurrence, là, il fallait deux pour que le crime ait lieu. Je crois qu'il y avait une grande curiosité. Je crois que c'est ce qui se dégageait le plus possible. Mais l'ambiance était calme par rapport à certains procès où il y avait des réactions publiques. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, en tout cas. Ça fait déjà un bout de temps, mais
bien sûr,
il semble que c'était
sûr.
Assez calme.
Les deux accusés se regardent, se parlent.
L'un derrière l'autre.
Ils sont l'un derrière l'autre et ils ne s'envoient pas de regard. Il n'y a pas de communication entre eux.
Non, dans mon souvenir, non. Lui était derrière elle, je crois.
Bien, je vais me tourner vers les avocats qui sont ce soir dans le studio de l'heure du crime. Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat du médecin de famille, et Maître Henri de Beauregard, avocat de Nicole Zavadzki. Et je vous pose exactement la même question à tous les deux. C'est un procès parole contre parole, on a l'impression.
Oh, si l'on veut, mais je crois que le doute sur le déroulement des faits n'a pas véritablement existé dans le dossier. Vous évoquiez toutes les inventions, toutes les créations de Nicole Zavadzki, la tante Julie qui fait état des maltraitances dont sa nièce serait victime, alors que ce n'est autre que Nicole Zavadzki qui parle, le frère jumeau qui n'existe pas, les dessins d'enfants qu'elle présente comme étant ceux de sa fille et qui vont être identifiés comme n'étant pas de sa fille. Ces dessins qui appellent au secours le médecin, alors que celui-ci se soit laissé embarqué dans une histoire folle. Je l'admets tout à fait, comme il l'admettait d'ailleurs lui-même. Mais il y a un étonnant comportement de cette femme qui, certes, à ce moment-là, va dire qu'elle a perdu l'homme qu'elle aimait et que c'est le médecin qui en est seul responsable, mais dont l'environnement, dont le déroulement des choses, ce rendez-vous que vous évoquiez à l'instant avec la tante Julie, qui bien évidemment n'existe ne peut pas avoir lieu, et qui va être expliqué par Nicole Zavadzki, les plaintes déposées au tribunal, la procédure de divorce initiée, qu'il va essayer de vérifier en s'y rendant, encore une fois, sans succès.
Elle n'avait jamais déposé de plainte.
Mais non, tout ça était évidemment complètement fantasmé. En réalité, je pense, je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'idée de placer cet homme sous sa dépendance, pas nécessairement d'ailleurs pour tuer son mari, mais en quelque sorte prendre un homme vertueux, qui est au service de tous, et en faire un meurtrier, c'est probablement une énorme satisfaction de pouvoir.
Une façon d'exister, sûrement quelque part. Maître de Beauregard, votre cliente à l'époque, à ce premier procès, elle dit, c'est finalement, j'ai été sous influence du médecin. Hein, c'est là un petit peu...
Moi, je suis dans une situation un peu singulière, puisque je ne l'assistais pas à l'époque. Et que je ne l'ai assisté que par la suite, en réalité, à l'issue même du deuxième procès dont on parlera tout à l'heure. Simplement, ce que j'en ai compris et ce qu'elle m'en a dit, c'est qu'il y avait eu au fil de l'information judiciaire puis de procès une espèce de travers finalement qui s'était installé et qu'elle a regretté évidemment par la suite, qui consistait pour la justice en réalité davantage à détecter le mensonge suivant de Nicole Zavadzki. On rentrait dans un jeu en quelque sorte presque qui consistait à trouver les mensonges successifs de Nicole Zavadzki au lieu de comprendre pourquoi elle en était venue à ses mensonges, comment ce mécanisme s'était mis en place, comment la relation, parce qu'une fois encore, on présente Nicole Zavadzki comme ayant, parce que ça correspond, j'allais dire, peut-être à une facilité qui correspond, vous en parliez au début, à notre fantasme, à la littérature, à tout un tas de choses, comme une veuve noire qui aurait manipulé, en quelque sorte...
J'ai pas employé ce terme, mais il a été employé lors de la...
Qui aurait manipulé, j'entends celui-ci tout à l'heure, mis sous une dépendance à un médecin, etc. La vérité, c'est que tout ceci me paraît pas tout à fait exact. La vérité, c'est que, vous en parliez tout à l'heure, ça n'est pas inexact que le docteur T s'est livré à des actes médicaux, y compris sur Nicole, qui n'étaient pas justifiés, qu'il a fait sur elle des choses qui étaient objectivement pas justifiées, y compris des anesthésies qui n'étaient pas justifiées, pour avoir des relations, par exemple. Vous voyez, j'entendais mon confrère dire tout à l'heure, il prescrivait les médicaments. Enfin, pas tout à fait. Il les fabriquait, les médicaments. Il les fabriquait et il les donnait à Nicole pour qu'elle les remette. Donc, si vous voulez, moi, je suis toujours un peu inquiet de cette forme de facilité qui a consisté à attribuer des rôles, en fait. Il y avait une manipulatrice, et je l'entendais tout à l'heure de la bouche du journaliste, il y avait dans le box un accusé et une victime, quasiment, donc le docteur T était victime de la dangereuse manipulatrice qui était quelqu'un qui, une fois encore, avait un niveau intellectuel, culturel, etc., qui était très sensiblement inférieur au sien, qui ne connaissait strictement rien aux médicaments, et qui était venu au départ se confier à un médecin.
Les jurés tranchent, verdict, 25 ans de réclusion pour Nicole Zavadzki, 20 ans pour le docteur Michel T, qui sera radié de l'ordre des médecins. Appel de la veuve, il y aura donc un deuxième procès. L'affaire Zavadzki, le jeu mortel du poison et du mensonge. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Zavadzki, son épouse et son amant ont été condamnés pour son empoisonnement mortel. 8 mois plus tard, s'ouvre le procès d'appel pour un couple qui ne s'adresse plus la parole. Ce 26 février 2002, le médecin Michel T est le premier à demander à prendre la parole devant la cour d'assises d'appel d'Indre-et-Loire. Il dit ne pas avoir fait appel de sa condamnation et précise qu'il a conscience de l'atrocité de la faute qu'il a commise. Nicole Zavadzki, elle, adopte la même attitude qu'au premier procès. Elle explique avoir pris le docteur comme amant car elle était esseulée, son mari militaire étant toujours par Mont et par Vaud. Elle explique que dans cette solitude, elle cherchait seulement l'aide du médecin, mais celui-ci aurait exercé des pressions de plus en plus fortes sur elle. Je souhaitais qu'on m'éloigne du docteur T, dit-elle. Le médecin répète qu'il avait cru cette femme en grand danger et ne pensait qu'à la sauver. Il était comme illuminé, il était vampirisé, dira l'épouse du médecin à la barre. Nicole Zavadzki, une manipulatrice hors pair selon les psychiatres, explique devant les jurés avoir déraillé, avoir honte d'elle avec tous ses mensonges. « Je faisais n'importe quoi à cette époque », s'exclame-t-elle. Elle voulait attirer l'attention, elle regrette, affirme être perdue. Après 4 jours de procès, le verdict tombe. Peine aggravée pour Nicole Zavadzki, 28 ans de réclusion, pas de changement pour le médecin, 20 ans de prison. Maître Jean-Yves Le Borgne, vous êtes à l'époque l'avocat, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, du médecin de famille, Michel T, et vous êtes à ce procès. C'est quoi? C'est la copie conforme du premier procès? Il n'y a pas de changement?
Ça ressemble beaucoup dans la distribution des rôles et dans la compréhension qu'on a de ce qui s'est passé au premier procès. Mais quand je dis compréhension, le mot est peut-être mal choisi, car la vraie question qui se pose, c'est mais pourquoi a-t-on tué le major Zavadzki?
On revient toujours à cette question.
Ça n'avait pas d'intérêt, et je pense que l'hypothèse du classement de ce crime dans les crimes habituels, qu'ils soient passionnels ou mus par un intérêt financier, ne correspond pas à la réalité. En fait, ce qui me paraît une évidence et ce qui s'est démontré tout au long de ce premier et surtout du deuxième procès, c'est qu'une femme, dans une sorte de jeu inconscient probablement, a voulu faire d'un homme qui était un homme important un outil à sa disposition. Je dirais que il y a là une forme de perversité à dimension pathologique qui aurait peut-être dû profiter comme d'une circonstance atténuante à Nicole Zavadzki.
Et d'ailleurs, les experts disent effectivement une manipulatrice hors pair, ce sont leurs termes, qu'ils n'ont jamais vu un cas pareil, ce sont encore leurs termes. Maître Henri de Beauregard, vous êtes l'avocat de Nicole Zavadzki, elle va regretter devant les jurés tous ces mensonges, hein. Elle va vraiment faire amende honorable, mais c'est trop tard.
Alors, moi, une fois encore, je ne l'étais pas à l'époque.
Oui,
je ne sais que ce qu'elle m'en a dit ensuite. Oui, je crois qu'elle a essayé d'avoir un procès différent, mais en effet, c'était trop tard. Et je crois que malgré tout, dans les deux procès, il y a eu un grand déséquilibre. Une fois encore, je reprends ce qui était dit tout à l'heure, cette sensation d'avoir une victime et une accusée dans le box, et elle n'a jamais réussi à lutter, en quelque sorte, contre ce déséquilibre des présentations, contre cette facilité avec laquelle, j'allais dire, dès avant le premier procès, pendant le premier et ensuite pendant le second, les rôles, c'était le mot que prenait tout à l'heure mon confrère Jean-Yves Le Borne, les rôles ont été attribués. Donc elle était la manipulatrice et il devenait quasiment impossible de sortir de ce schéma, ce d'autant qu'elle a fait, c'est en tout cas ce qu'elle dit elle-même, semble-t-il, de très mauvais procès, qu'on sait aux assises combien l'impression des jurés sur quelques jours de procès peut être déterminante, et qu'à l'inverse, le docteur T, le contraste était frappant, faisait défiler ou avait fait défiler tout un tas de témoins qui étaient tous ses patients, qui venaient dire combien il les écoutait et les soignait avec attention, ce qui était certainement
alors,
cas.
Maître, effectivement, mais c'est quand même deux configurations différentes. Le docteur T, lui, il, tout de suite, il a avoué. C'est important quand même, ça. Nicole, elle reste quand même sur ses positions un petit peu de manière obstinée jusqu'au bout.
Bien sûr.
Et c'est peut-être un peu dommage pour elle.
Ah mais, certainement, vous, je le dis d'autant plus volontiers que, une fois encore, je n'étais pas son avocat à l'époque.
Et vous lui aurez sans doute conseillé de faire différemment.
Peut-être est-ce que vous avez, dans le fait que désormais, lorsqu'il y a ce type de sollicitation, elle est changée d'avocat, une explication non dite, en tout cas, de ce qu'elle pense du mode de défense qu'elle a elle-même adopté avec l'accord et l'accompagnement de son conseil de l'époque, au cours de ces deux procès successifs.
Je vois Maître Le Borne s'agiter à côté de vous parce qu'il n'est pas content, il n'est pas d'accord.
Non, je ne m'agite pas. Je me pose simplement la question de savoir si mon ami Henri de Bourgard n'est pas lui aussi sous influence. Mais en réalité, qu'y ait-tu deux statuts différents, celui de Nicole Zawadzki et celui du docteur T pendant les procès? Oui, bien sûr. Mais pour quelle raison? Tout simplement parce que dès la première minute, je le rappelais tout à l'heure, dès la garde à vue, le docteur T a dit voilà ce qui s'est passé. Bon, bref, se frappant la poitrine, peut-être découvrant, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il ait découvert si vite, mais quelle avait été la situation aberrante dans laquelle il s'était laissé conduire, et le fait qu'elle l'ait manipulé à travers tous ses mensonges, le fait que tous les experts l'aient confirmé, le fait que finalement il ne collait pas à ce personnage, et qu'au fond, le crime qu'on lui reprochait était le contraire de sa personne, a joué bien évidemment dans l'économie du procès.
Je voudrais juste avoir comprendre Gérald Massé qui est en ligne dans l'heure du crime. Vous étiez journaliste à l'Éco-Républicain au moment des faits. Alors il y a ce deuxième procès qui se conclut par des condamnations. Est-ce qu'on parle toujours de cette affaire dans votre région?
Alors je n'ai pas assisté au deuxième procès, mais on avait un correspondant à Tours. Et effectivement, il y a eu un compte-rendu tous les jours de chaque audience.
Ce que je veux dire par là, Gérald Massé, c'est une affaire qui a marqué beaucoup les esprits sur place. Hein.
Oui, forcément, parce que c'était une affaire hors norme. Hein. Hors norme, on l'a dit, parce que c'est un cas d'école, cette manipulation entre un être humain et un autre. Et en plus, ça venait aussi, enfin, le fait qu'il y ait un grand intérêt, ça vient aussi de la personnalité du docteur T, qui était très aimé. Et voilà, et personne n'a compris comment il avait pu en arriver là.
Alors, en quelques mots, nos deux avocats, Jean-Yves Le Borne et Henri de Beauregard, question très simple, que deviennent vos clients, Maître Le Borne?
L'affaire est très ancienne, la peine a été prononcée.
Ils sont sortis de prison tous les deux. Hein.
Mais je voudrais d'un mot de conclusion.
Un mot, parce qu'il faut
d'un mot, c'est sûr. Mais d'un mot, dire ce que cette affaire m'a apporté à moi. C'était que j'ai, non pas découvert, je le pressentais depuis longtemps, mais qu'il y a une possibilité que le hasard, qu'une puissance inconnue, que quelque chose qui dépasse la volonté humaine puisse s'emparer d'un individu et le conduire sur la voie du crime. En l'espèce, ça a été Nicole Zawadzki. Mais C'est intéressant de savoir que les meurtriers ne sont pas des êtres d'une texture différente.
Il y a l'irrationnel aussi qui rentre en jeu. Maître Henri de Beauregard, en quelques mots, que devient votre cliente? Elle est sortie, elle aussi.
Elle est sortie, en effet. Et voyez, si j'ai pris une part de l'émission, peut-être, à essayer d'insister sur ce déséquilibre qui existait entre l'un et l'autre, c'est parce que, moi, l'ayant connu par la suite, l'ayant accompagné en particulier dans l'exécution de sa peine, eh bien, j'ai constaté qu'en effet, la personne telle qu'elle évoluait n'était pas celle qui avait été présentée. Et j'allais dire ce déséquilibre. Vous avez parlé tout à l'heure des peines 28 et 20 ans. Eh bien, en réalité, ce déséquilibre, il va se trouver parfaitement corrigé au niveau de l'exécution des peines, puisqu'elle sortira moins de 2 ans seulement après le docteur T, après avoir fait, je crois, 12 ans de détention là où elle en avait pris 28. Ça ne sont pas parce que les magistrats étaient particulièrement sympathiques à son endroit. C'est parce qu'on a constaté qu'en réalité, elle n'était pas celle qu'elle avait présentée. Et en effet, elle avait fait un mauvais choix de défense, un mauvais procès qu'elle a payé très cher.
Merci beaucoup, maître Henri de Beauregard et maître Jean-Yves Le Borgne, et puis également Gérald Massé, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire Zavadzki, poison, mensonge et puis l'aveuglement peut-être de la passion. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir. C'était un plaisir, cette heure du crime.